Actu SF, les podcasts.
Bonjour, bienvenue à cette table ronde sur le corps dans les univers cyberpunk et transhumaniste. Juste une petite question avant qu'on commence. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui font du jeu de rôle dans la salle ? Ok. Nous allons, dans un premier temps, discuter autour de ce thème, mais nous allons prendre le temps de développer des points. On va essayer de ne pas trop survoler les thématiques. Il faut aussi savoir que nous allons aborder précisément ce thème-là dans les jeux de rôle, d'un point de vue aussi ludique, donc c'est intéressant aussi en termes de réflexion. Mais pour ce qui est des mes approches philosophiques ou scientifiques pures de la chose, il y a eu des conférences sur le transhumanisme, il y en a encore, je crois. Donc je vous invite à aller les voir si vous voulez un peu plus de précision là-dessus. J'accueille trois invités autour de moi, donc je vais laisser se présenter.
Bonjour, je m'appelle Sarah Newton, je suis transhumaniste et joueuse, je suis auteur du jeu de rôle Mindjammer, qui est un jeu de rôle de science-fiction transhumaniste. Et en gros, je m'intéresse beaucoup à la transcendance en tant que concept de fiction aussi. J'écris les nouvelles et nos romans aussi. Pas seulement Mindjammer, j'ai écrit aussi pour le jeu de rôle qui s'appelle RuneQuest de Chaosium. Je suis en train d'écrire une grande campagne. Ce qui m'intéresse avec RuneQuest et Glorance, si vous le connaissez en tant qu'univers et de jeu de rôle, c'est aussi son aspect de transcendance, de transhumanisme mythique plutôt que technologique. Alors c'est ça qui m'intéresse dans le thème de transhumanisme, la possibilité pour l'être humain de trouver son prochaine étape. Alors oui, c'est moi. Bonjour.
Donc, bonjour. Alors moi, je m'appelle Julien Piroux. Certains d'entre vous m'ont peut-être vu sur une chaîne de télé qui s'appelait No Life, Feu No Life, qui a disparu un peu plus tôt cette année, où je présentais notamment des émissions sur le jeu de rôle. À côté de ça, je suis un très grand fan de Shadowrun. J'ai un site sur Shadowrun depuis bientôt 15 ans. J'écris aussi pour des jeux de rôle, mais qui ne sont pas du tout cyberpunk pour le coup, puisque j'écris pour un jeu qui s'appelle Castle Falkenstein, qui est un jeu steampunk, et pour Hearthstone, qui est un jeu de fantasy post-apocalyptique, donc rien à voir. Mais voilà, le cyberpunk, c'est quelque chose qui m'intéresse, notamment via Shadowrun et la science-fiction.
Tu peux aussi présenter ton site, peut-être que certains connaissent, ou ça invitera des gens à aller voir.
Mon site qui s'appelle fondationdraco.fr, voilà, donc qui est sur Shadowrun, Hearthstone et récemment aussi BattleTech. Donc voilà, des univers assez variés au final.
Donc, bonjour à tous, je m'appelle Romain McKildron. Moi, c'est mon activité, c'est plutôt de faire découvrir le jeu de rôle en fait de manière accessible en s'affranchissant des complexités mécaniques de jeu. Je maîtrise Shadowrun depuis la V3. Je maîtrise Eclipse Phase depuis maintenant, je vais dire 3-4 ans. Je travaille dans l'IT en fait aujourd'hui et je suis vraiment très, très intéressé par tout ce qui est justement cyberpunk, transhumanisme et application aussi des nouvelles technologies dans le futur. Parce que ça fait un peu partie de mon métier et donc je fais découvrir tout ça à des joueurs, je fais découvrir ce genre d'univers et vraiment tout ce que ça peut impliquer à côté, c'est-à-dire vraiment l'impact de la machine, du transhumanisme sur le jeu.
Donc comme première question, nous allons aborder simplement qu'est-ce, si vous avez un jeu ou plusieurs d'ailleurs, mais qu'est-ce qui vous plaît dans le jeu de rôle abordant les univers cyberpunk ou transhumanistes ?
J'aborderai cette question. Pour moi, toujours dans la fiction, quand je lis la science-fiction, c'est le sens d'émerveillement qui me plaît le plus. Le fait d'avoir mon esprit explosé par les concepts que j'ai découverts dans un roman. Et je trouve aussi, avec le transhumanisme dans les jeux de rôle, on a la même possibilité. Oui, sans être trop sérieux, c'est nécessaire pour nous comme une société d'avoir un grand débat public sur les découvertes de transhumanisme qui sont maintenant juste devant nous. Et je trouve que les jeux de rôle sont un forum, sont une arène parfaite pour explorer ces thèmes, ces sujets et aussi s'amuser. Alors c'est ça qui m'attire le plus vers le transhumanisme dans le jeu de rôle, quoi.
Ce que j'aime beaucoup en fait dans ce type d'univers, c'est la créativité qu'on peut en avoir. C'est-à-dire que l'éventail des possibilités est tellement large, je vais dire que les joueurs avec qui je maîtrise me sortent des trucs mais complètement loufoques, et ça peut partir à la fois dans des choses un peu sérieuses, réalistes, etc., mais dans des trucs ils vont me faire des concepts de corps artificiels, mais pour des usages bien spécifiques que même moi j'aurais pas pensé. Donc c'est vraiment toute cette créativité en fait qui est stimulée, qu'on n'a pas forcément dans la fantasy, puisque la fantasy on a quand même beaucoup trop de codes, de références, que ce soit en ouvrage ou en cinématographie, qu'on a beaucoup moins en fait en termes de film que pour ce qui est cyberpunk et transhumanisme. Et donc c'est quelque chose qui est encore plus facile, j'allais dire, d'exploiter en termes de créativité. Moins il y a de codes, plus on imagine.
Moi, de mon côté, le cyberpunk, ce qui m'a toujours semblé assez fascinant, c'est que c'est moins une vision du futur qu'une extrapolation de maintenant. En fait, l'expression consacrée, c'est de dire c'est 20 minutes dans le futur pour dire que finalement, le cyberpunk se contente de prendre ce qu'il y a déjà actuellement dans la société et de l'exagérer, de le projeter, de l'éclater. Mais c'est toujours en reflet du monde d'aujourd'hui. C'est ce qu'on voyait par exemple dans la série Black Mirror, bon, qui n'est pas vraiment cyberpunk, mais qui parfois s'aventure dans ce genre de territoire, mais c'est toujours un miroir du présent. Et c'est toujours, pour moi, assez fascinant. Je suis surtout MJ, en fait, sur Shadowrun, assez peu joueur. Et en tant que MJ, j'essaie toujours que les scénarios dans lesquels je vais envoyer mes joueurs... modestement essayer de les faire réfléchir sur des choses qui se passent actuellement dans le monde, ou en tout cas ils fassent référence ou détournent des situations présentes. Donc ça, je trouve que c'est un formidable terrain de jeu en fait pour parler du présent via ce type d'univers.
J'ai un commentaire à faire aussi. Ça, tu as dit que c'est 20 minutes dans le futur, oui, mais à mon avis, maintenant, le cyberpunk, c'est 20 minutes dans le futur du point de vue des gens des années 80 et 90. Oui, c'est déjà démodé. Et on se trouve maintenant, on voit dans les jeux de rôle qu'il faut maintenant réécrire les anciens jeux de rôle cyberpunk parce qu'ils déjà sont peu relevants à notre expérience maintenant. Nous avons déjà dépassé les technologies de base de beaucoup de cyberpunk sans avoir vraiment... On peut argumenter que nous sommes déjà dans un monde un peu cyberpunk, mais sans avoir vraiment les impacts sociaux qu'on s'était attendu à l'époque. Donc, je crois que c'est très intéressant de jouer avec les troupes et les thèmes de cyberpunk autour d'une table, mais aussi de peut-être s'admettre que on est maintenant sur le... C'est pas forcément d'une sorte de cyberpunk, mais déjà d'une sorte de singularité punk. Oui, le moment où on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans l'avenir. On a eu ce pessimisme de cyberpunk, mais maintenant, il y a une lutte entre cet pessimisme et aussi une sorte d'optimisme que peut-être ça va pas être trop noir qu'on a pensé, oui.
Là où je vais commenter aussi, et ça va me rappeler des souvenirs qui sont très récents, pas plus loin qu'hier soir. C'est en fait quand on discute, quand je viens aborder le fait que justement on parle aussi un peu de la société de maintenant, en extrapolant ses travers et son côté noir, c'est quelque chose que j'ai encore fait hier soir. Je vais pas trop parler du scénario que j'ai fait jouer lors de la nuit ludique parce qu'il y a peut-être des oreilles sensibles et je risquerai de me faire assassiner. Mais sinon voilà, c'est vraiment prendre un fait de société. Dont j'ai pris vraiment la noirceur, que j'ai extrapolé avec justement une adaptation à des choses, avec des concepts cyberpunk derrière, pour dire attention aussi, C'est, vous voyez, ça a rappelé à des gens, ils m'ont, enfin, quand j'en ai parlé, ou même aux joueurs, ils m'ont dit, ça me fait penser beaucoup à ça. Je sais, bah ouais, mais tu vois, c'est encore pire, en fait. Et dire, attention, le futur, en fait, c'est aussi dire, ce qu'on voit dans les univers cyberpunk et transhumanistes, c'est aussi une peinture plus sombre de la société de maintenant, avec vraiment des sociétés qui deviennent tentaculaires aussi, etc. Et des gens qui ont un appât du pouvoir qui est de plus en plus puissant.
Eh bien justement, je vais pouvoir lancer sur le fait, est-ce que le média jeu de rôle, comparé à d'autres, qu'ils soient films, télévision, séries, livres même, apporte, ou qu'est-ce qui est différent dans ce qu'il apporte par rapport à ces univers, par rapport à ces thématiques ?
Je vais réagir. Pour moi, l'expérience émotionnelle, c'est-à-dire l'immersion complète du joueur dans cet univers. C'est vraiment, voilà, c'est quand la partie est bien amenée, quand on implique vraiment le joueur jusqu'au bout des choses, il ressent le message qu'on essaie de lui faire passer. Et il n'est pas seulement spectateur comme un film, il en devient acteur.
Et par contre, un point qui, à mon avis, distingue le jeu de rôle d'expérience où le joueur, où justement il n'y a pas de notion de joueur ou d'implication de ce type, c'est aussi qu'il y a moins peut-être de leçons qui sont données là où un livre, un film, même un jeu vidéo vont avoir un message très fort. Voilà, je pense par exemple, si vous avez joué au récent jeu Deus Ex, le héros répète comme un mantra qu'il n'a jamais demandé à avoir ses augmentations. C'est même devenu après un mème sur Internet. Et qu'il y a la souffrance dans la société autour de ça. Là où dans un jeu de rôle, tout ça, c'est des options qui sont à disposition des joueurs pour qu'ils puissent aussi s'amuser avec, les réinterpréter, les utiliser. Il y a moins peut-être d'a priori négatif sur le fait de se couper un bras pour le remplacer par un bras cybernétique, ce qui logiquement devrait quand même être un choix un peu difficile, mais dans un jeu comme Cyberpunk ou Shadowrun, non, en fait, ça fait partie du monde, et même c'est peut-être pas désirable, mais en tout cas c'est dans cette logique de dire, bah, je veux un personnage qui soit cool, qui soit puissant, qui ait tout un tas d'options. Donc c'est une approche un peu différente, là où un film, ou un livre, ou un jeu vidéo vont plus essayer de mettre le conflit ou le comment dirais-je, un commentaire sur le fait d'avoir ses augmentations, de transformer son corps, et moins sur l'aspect, bah, tu as toutes ces options, amuse-toi avec, c'est ton coffre à jouer, quoi.
Oui, et juste pour soutenir ce que mes collègues ont dit, c'est dans les jeux de rôle, c'est un forum. On peut explorer nous-mêmes ces thèmes qui nous impactent tous. Et aussi, je trouve que il y a beaucoup d'idées reçues concernant le transhumanisme. Il y a plusieurs peut-être approches au thème. Il y a toujours la peur de la mort qui nous affecte tous. Mais aussi, il y a les regards sur l'avenir. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de noir, de pessimiste, qui juste avant, ou est-ce qu'on peut contrôler le développement et les changements de notre société pour avoir un avenir un peu plus glorieux? Et ça, c'est quelque chose que dans les médias, je trouve qu'il y a souvent une approche qui est assez monolithique, qui veut diriger le débat dans une certaine direction. Et dans les jeux de rôle, je m'étonne toujours que les jeux de rôle ne sont pas partout dans notre société. Ça me semble un outil magnifique pour l'éducation, pour avoir ce débat entre nous, pour faire les expériences de pensée. Et je trouve que, surtout pour le transhumanisme maintenant, c'est une façon glorieuse pour nous de discuter et d'explorer ces thèmes.
Ok. Nous avons poussé un peu plus vers l'aspect ludique de la chose, un temps. On parle de prothèses, on parle d'implants. Dans le transhumanisme, on parle d'enveloppe. Directement, on change de corps. On ne s'amuse pas simplement à changer une partie de son corps. Est-ce que, ou comment, utiliser tous ces outils qui sont mis à disposition dans ces univers comment utiliser ça pour procurer quelque chose de ludique et pas simplement avoir une brouette de dés supplémentaire achetée, mais que l'on puisse s'amuser autour. On a dit tout à l'heure que ça permettait aussi, si on le souhaitait, amener des réflexions sur ces questions-là. Donc comment vous utilisez tous ces outils?
Je peux juste référencer le système Fate, peut-être parce que j'ai découvert le système Fate il y a 10 ans et j'ai trouvé que c'était parfait pour Mindjammer. Ça permet d'avoir une série de phrases discursives qui décrit les facettes des personnalités des personnages ou de ses histoires ou de leur histoire. Dans le transhumanisme, peut-être un des concepts centraux, c'est l'identité personnelle. Est-ce que au fur et à mesure qu'on change nos corps, qu'on peut-être on a des implants neuronaux pour changer nos pensées, pour partager nos mémoires, par exemple, transmettre les mémoires entre les gens, ça va forcément impacter et changer notre sens de l'identité personnelle. Et pour simuler ça dans un jeu, c'est, avec les jeux de rôle plus traditionnels, c'est assez difficile à simuler cet aspect des choses. Mais avec Fate, on a ces aspects, ces phrases qu'on peut directement changer. Alors c'est possible, par exemple, dans Mindjammer, d'avoir quelqu'un qui attaque, qui hack la personnalité d'un autre. C'est une attaque de combat, on lance les jets. Et si on réussit, on peut redéfinir ou manipuler ou changer un des aspects du personnage. Alors c'est quelque chose qui est très facile à faire dans Fate, qui honnêtement je n'ai pas trouvé avant dans des autres systèmes qui existaient déjà. Alors c'est un des choses qu'on peut faire dans Fate qui est très efficace pour le transhumanisme.
Moi, ce qui me semble intéressant, cette question du ludisme sur les aspects cyberpunk, transhumaniste. Bon, là, je vais surtout parler de Shadowrun et de Cyberpunk, en l'occurrence Cyberpunk 2020, l'édition que je connais le mieux de ce jeu. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que les implants, les augmentations sont traités de manière très différentes entre ces deux jeux, qui sont contemporains. Hein, pour la petite histoire, Shadowrun a rajouté la magie. Pour ceux qui ne connaissent pas Shadowrun, c'est en gros du cyberpunk avec des elfes et des dragons, pour faire très 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 simple. Mais voilà, cette dimension magique a été rajoutée parce que Cyberpunk leur a coupé l'herbe sous le pied et est sorti juste avant. Et donc Fassa, qui était l'éditeur de Shadowrun, a été obligé de rajouter quelque chose à son propre jeu cyberpunk pour se différencier, parce que du coup, sinon, ça aurait juste été un plus un, et pas un jeu assez différent. Mais en tout cas, comme dans Shadowrun, il y a cette dichotomie avec la technologie d'un côté et la magie de l'autre, ils ont eu besoin d'avoir un système pour équilibrer ça, pour dire tu peux pas être à la fois un cyborg super équipé et un super mage, sinon voilà, le jeu il est cassé après. Donc du coup, plus tu mets de technologie dans ton corps, plus l'essence, ce qu'ils appellent donc l'essence du personnage, diminue, et plus il est inepte vis-à-vis de tout ce qui est magique dans le monde de Shadowrun. Donc c'est vraiment une dimension purement d'équilibrage pour s'assurer qu'un personnage puisse pas non plus être trop puissant et que le joueur fasse des choix au moment de la création qui vont être intéressants et qui vont être cadré un petit peu. Là où, dans Cyberpunk, où il n'y a pas du tout cette dimension magique, ils ont pu mettre beaucoup plus de roleplay dans l'idée de, on retrouve un concept un peu similaire qui est que plus on met de technologie, plus il y a un coût d'humanité à payer et plus l'empathie du personnage va diminuer. C'est un vieux concept de la science-fiction. Est-il pertinent ou pas, c'est une autre question, mais de dire que plus on devient une machine, moins on est entre guillemets humain, moins on est capable de sentiments humains, d'empathie humaine. En tout cas, donc un personnage hautement cybernétisé devient froid, devient désagréable, cynique, violent, ainsi de suite. jusqu'au point de rentrer dans la cyberpsychose, auquel cas il n'est plus jouable, tout simplement, il devient un psychopathe. Si vous aviez vu le teaser du jeu là, qui est en développement, jeu vidéo Cyberpunk 2077, le premier teaser qu'ils avaient fait mettait ça en scène. On voyait une femme qui, de toute évidence, était rentrée dans la cyberpsychose et avait tué tout le monde autour d'elle. Mais ça, c'est quelque chose où on attend du joueur qu'il roleplay cet aspect-là, qu'il joue le fait que son personnage a de moins en moins d'empathie. Donc c'est moins une notion d'équilibrage du jeu et plus un outil de roleplay pour rendre le personnage plus intéressant et la partie plus intéressante.
C'est aussi un préjugé idéologique de Cyberpunk aussi. Si vous avez vu, comment s'appelle le film en français, Her, avec Joaquin Phoenix, Her, d'accord. Alors c'est bien possible que les transhumains vont être, les IA vont être beaucoup plus humains que nous. Alors c'est intéressant de voir la différence entre le cyberpunk des années 80-90 et maintenant.
En fait, moi, côté ludique, le cyberpunk et le transhumanisme sont des grosses boîtes à outils pour mes joueurs. En fait. C'est vraiment ce que vous ne pouvez pas faire avec votre personnage, votre conscience, votre corps humain. Vous pouvez le faire en fait, avec une coque transhumaine dans Eclipsaz, si vous voulez devenir prendre une coque qui a un poulpe de l'espace, etc., pour vous aider, vous le faites. En fait. Si vous n'avez pas du tout de charisme et que vous devez séduire un homme politique, voilà, vous prenez le corps approprié, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, on ouvre l'éventail des possibilités, donc on ouvre aussi le jeu RP en fait, à d'autres horizons. On n'est plus cantonné en fait à son simple avatar. On est cantonné à tout un éventail de possibilités qu'on peut incarner. Et c'est ah ouais, non mais j'ai envie de jouer ça à ce moment-là. J'ai ma petite idée pour résoudre une situation. Ok, pas de souci. Prends l'outil dans la boîte et éclate-toi. Et moi, quand je vois mes joueurs s'éclater et me sortir des trucs mais complètement barrés, en fait c'est limite là où je prends le plus de plaisir aussi à maîtriser.
C'est vrai que juste très rapidement ça justifie ce qu'on trouve dans beaucoup de jeux de rôle, qui est le côté plus 1, plus 2, le côté bon, j'augmente parce que j'ai gagné de l'expérience, mon personnage, mon barbare nain ou que sais-je, va avoir plus 2 dans telle statistique, plus 3 dans telle statistique, ce qui est pas, quand on y réfléchit, ça n'a pas vraiment de sens. Mais dans les mondes cyberpunk et transhumanistes, ça a du sens, puisque c'est le corps qu'on change, qu'on transforme, qu'on adapte. Du coup, tous ces bonus ludiques de gameplay, de règles, sont parfaitement logiques dans ce type d'univers.
En fait, après, les mécaniques ludiques en elles-mêmes même mettent en place en fait, les outils pour éviter le grobilisme. Tu parlais de la cyberpsychose, Shadowrun, on a aussi le mode cyberzombie, c'est-à-dire que plus aussi vous perdez votre essence, plus vous avez d'augmentation, plus un pirate expérimenté, pour un moment vous piratez. Donc vous perdez. C'est pire. Quand vous perdez le contrôle de votre corps et que vous avez votre maître du jeu qui est en train de vous dire « Hey, je suis en train de te faire faire ça, là. C'était mon pantin. » Donc c'est vraiment, c'est aussi une sensation de dire « Ah ouais, j'ai voulu aller dans un extrême, mais j'en paye le prix. » Et tout ça, voilà, c'est des mécaniques d'équilibrage, mais ça donne aussi une nouvelle expérience en montrant d'autres choses, en fait. Et c'est ça qui est, comme je dis, le cyberpunk et le transhumanisme, en termes de jeu de rôle, c'est des grosses boîtes à outils et il faut laisser parler sa créativité.
J'ai trouvé avec Mindjammer que l'idée d'avoir moins d'humanité, le plus qu'on avance, n'était pas exactement, ne réfléchit pas exactement la science-fiction moderne. Donc j'ai réfléchi assez beaucoup sur ce qui peut être une limite au personnage en tant que règle, en tant que balance. Et je me suis dit que peut-être la longévité va être quelque chose qui va être très, très... une influence très très forte dans notre société. Les gens qui ont peut-être un siècle, 100 ans, 200 ans, 500 ans, quelque chose comme ça, de l'âge, vont être très différents psychologiquement que nous. Ils vont être peut-être plus songeurs, mais aussi moins patients avec nos jeunes. Ils ne vont pas faire aussi d'erreurs quand ils parlent ou quand ils agissent. Donc c'était ça qui pour moi était un des systèmes de règles que j'ai utilisé pour ajouter un peu de balance. On peut avoir énormément de compétences, énormément d'expérience en étant un transhumain de 250 ans, mais on va être éloigné de pouvoir sympathiser, empathiser avec la génération actuelle, par exemple.
Justement, en continuité de ces réflexions, il y a la question de l'identité. On transforme son corps, on est blessé, on peut changer un organe, on change totalement de corps, on fait des sauvegardes de son être, de son ego. Tout ceci amène, contrairement à des univers contemporains, même médiévaux, où la mort est clairement une peur pour notre personnage, est une fin pour notre personnage. Ici, on transcende ce que tu disais, on transcende la mort. Du coup, dans le jeu de rôle, l'approche doit être différente pour les joueurs. Qu'est-ce que vous utilisez ? Est-ce que vous avez des outils pour inciter les joueurs ou pour peut-être mettre en confiance les nouveaux joueurs vis-à-vis de ce thème de la mort ?
J'aimerais bien lever juste un point ici. C'est un point très critique pour le débat. C'est la mort, oui. L'univers n'est pas immortel. Donc, on ne peut pas transcender la mort. La mort reste, comme peut-être on peut avoir une vie énormément prolongée, mais quand même, la mort reste toujours une menace. Donc, et aussi dans le transhumanisme, il y a un grand débat autour de dans la science, mais maintenant autour de la conscience. Est-ce que c'est possible de transférer une conscience entière dans un autre corps? Et j'ai fait beaucoup de recherches pour Mindjammer pour décider. J'ai parlé avec beaucoup de neuroscientifiques. Et en général, j'ai découvert que non, c'est pas possible. C'est possible de faire une copie presque identique. Et c'est bien sûr faisable, mais c'est pas le soi. Le soi n'est pas transférable. Le soi qui est quelque chose. Dans le transhumanisme, je trouve qu'il y a les restes de dualisme cartésien. Entre il y a 400 ans, Descartes dit qu'il y a le corps, il y a l'esprit, il a tiré une grande différence entre les deux, et ça reste maintenant. Et c'est très attirant pour nous qui habitent dans une société qui était anciennement chrétienne, de voir dans l'avenir la possibilité d'avoir une âme qui est transférable. Et ça, c'est un point très important du débat. Est-ce que c'est possible de transférer l'identité? Pour moi, non. Donc, la mort reste une menace. On peut avoir une vie très protégée, très longue, et donc les PJ vont aborder les problèmes différemment. Il faut avoir beaucoup de précautions quand on approche d'un problème. Mais aussi, il y a une autre facette que j'aimerais juste rapidement aborder, c'est que la peur de la mort peut être un désavantage évolutionnaire pour l'évolution d'une espèce transhumaine. Pourquoi ? Parce que si un IA ne s'inquiète pas de la mort, cette IA peut facilement se transférer dans un autre corps, bien qu'il est conscient que ça occasionnerait sa propre mort. Et les êtres humains ont peur de la mort, donc ils ne peuvent pas. Voilà, il y a un grand conflit qui peut être présent dans l'univers d'un jeu de rôle qui a un impact très fort sur le gameplay.
C'est un peu sur ça que je voulais arriver, enfin clarifier un peu le point, c'est effectivement la mort d'un point de vue du rite de vie de personnage. Parce que même si on joue dans les univers médiéval fantastiques, un elfe ou une elfe, qui dans grande généralité vit un millénaire, voire plus, on joue l'équivalent d'une vie humaine. En tant que tel, un elfe, quoi qu'il arrive, s'il perd son bras, il perd son bras. S'il prend un coup qui le tue, il décède, il n'existe plus. Dans les univers cyberpunk, un peu plus poussé dans les univers transhumanistes, justement, en tout cas dans les jeux de rôle, on donne la possibilité de pallier à ce que cet elfe ne succombe pas de ses blessures ou devient incapable de faire des choses parce qu'il a perdu ses bras ou ce genre de choses.
Alors, en termes de mécanique de jeu, je vais dire, on parlait de la mort. Pour moi, la mort est une fin et une composante importante, en fait. C'est la mort qui donne la peur, notamment, qui détermine un niveau de prise de risque aussi, etc. Donc, en fait, les augmentations cyber que vont avoir les joueurs, etc., vont vont les faire sentir un peu plus protégés, mais que jouer à Cyberpunk ou Shadowrun, la mortalité est toujours présente. C'est pas vos augmentations qui vont vous empêcher de mourir. C'est ok, on peut vous remplacer un bras, mais déjà ce bras il a un coût, faut que vous l'ayez aussi. Hein. C'est mine de rien, si t'as pas le moyen de te payer un bras, t'as pas de bras, tout simplement. Et dans Eclipsas, vous pouvez changer de corps, etc. C'est pareil, vos coques ont un coût. Et vous devez aussi payer vos sauvegardes. Donc c'est-à-dire que même si votre coque est détruite, votre conscience, ok, elle est stockée dans un serveur, mais hey, t'as plus de sous, t'as pas payé ton dernier abonnement. Bah, ta conscience, elle est effacée, tout simplement. Donc rappelez en fait aux joueurs que dans du transhumanisme, comme dans du cyberpunk, même si vous avez cette protection supplémentaire, vous en restez plus ou moins mortel. Et donc ça va déterminer une certaine sécurité. Justement, c'est même bien. On se sent puissant, pas de souci. On va vouloir foncer dans le tas comme un gros bourrin, pas de problème. Ouais, sauf que quand je me dis en face que l'autre aussi, il est augmenté comme toi, il est aussi, voire peut-être plus puissant que toi. On peut se sentir en sécurité, mais là on se fait ah non, il y a toujours cette sensation de risque en fait, et cette peur qui revient un petit peu. Et donc on va se méfier, et ça va induire d'autres mécaniques. Se sentir trop puissant, se sentir invincible, je vais dire, en termes de mécanique de jeu, c'est complètement inintéressant. Ça amène pas de risque, ça amène pas de danger, ça limite la créativité, c'est je fonce dans le tas, je roule sur tout le monde, et puis voilà, fin de la partie. Enfin, alors que quand il y a du risque, de la méfiance, de la prudence, etc., ça donne d'autres méthodes, d'autres situations qui sont intéressantes à exploiter et à vivre.
Dans Shadowrun en particulier, on a vraiment ce côté où les Shadowrunners, donc les personnages qu'incarnent les joueurs, ils viennent de la gouttière, entre guillemets, c'est des mercenaires de l'ombre, ils n'ont aucune raison d'être... normalement, les squads d'élite de la corporation qu'ils vont rencontrer en face va être beaucoup mieux équipés, avoir du cyberware dernier cri, être... beaucoup, beaucoup plus performante. Voilà, les Shadowrunners, ce n'est pas des super-héros. Ils n'ont pas du meilleur équipement que tout le monde. S'ils veulent ce type d'équipement, eh bien, ça veut dire qu'ils vont devoir soit économiser pour se l'acheter, soit le voler quelque part. Et en soi, ça va être une prise de risque assez importante. Et dans Shadowrun, ils ont cette gradation du cyberware avec la qualité alpha, bêta, ainsi de suite, delta, où même un bras cybernétique de mauvaise qualité va avoir un coût en essence beaucoup plus élevé qu'un bras delta, par exemple. Et du coup, va beaucoup plus limiter un personnage qui... Parce que c'est évidemment pour le MJ, c'est un super outil de dire « bon, ton personnage devrait être mort ». D'après le jet de dés qui vient de se produire, mais il survit malgré tout. Par contre, il a perdu un bras qui est remplacé par un bras cybernétique de mauvaise qualité et qu'à un coup, hop, tu viens de perdre 3 points d'essence, donc c'est genre la moitié de ton essence est perdue. Pour le joueur, c'est quand même c'est pas rien, ça l'impacte quand même assez négativement. Et ça, c'est des outils avec lesquels le MJ peut aussi jouer pour rappeler aux joueurs justement que le monde dans lequel il évolue est dangereux et que même les augmentations cybernétiques ont un coût. C'est la devise de la cinquième édition de Shadowrun, c'est tout a un coût. Et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du jeu et qu'il faut rappeler aux joueurs parce qu'effectivement, parfois, il y a un peu ce côté j'ai un bras cyber, maintenant je suis le soldat de l'hiver et je vais tout défoncer. Non, en fait.
Je dirais aussi, pour les univers transhumanistes, il faut trouver quelque chose d'autre à menacer pour les joueurs. Il n'y a pas d'argent dans l'univers de Mindjammer. Il n'y a pas de manque. C'est possible d'avoir tout ce qu'on veut, en principe. Il y a les façons de les atteindre, mais quand même, on ne peut pas menacer l'argent des PJ, par exemple. Donc, on retourne à ce sens d'émerveillement concret dans un jeu de rôle transhumaniste. Dans Mindjammer, on lutte pour l'avenir. On est en train de décider, maintenant le conflit est-ce que l'avenir va être humain, noir, plein de lumière, ou plein de chaos? Et les PJ, vraiment, ont le pouvoir de décider ce qui va, quelle apparence va avoir l'avenir. Et c'est ça qu'on menace. Par exemple, dans Mindjammer, on a la possibilité de manipuler les cultures entières Les personnages sont des agents d'une instrumentalité de culture qui change les autres cultures. Et c'est ça qu'on peut menacer. C'est quand on subit des dégâts, c'est pas uniquement des dégâts à la personne qu'on parle, mais on peut avoir aussi l'occasion de subir des dégâts à une culture. Et ça change le don un peu. L'enjeu est beaucoup plus large qu'une seule être humain. En même temps, ça réfléchit, je crois, la largeur du concept aussi. Il faut que l'identité soit en jeu dans un jeu de rôle transhumaniste.
Une petite dernière question avant de passer aux questions, si vous en avez. Je voulais aborder aussi l'accès à la connaissance, au sens large du terme, dans les univers cyberpunk comme transhumaniste. En général, on peut avoir des implants qui nous permettent d'accéder à des bases de données quasi immédiatement. Dans Eclipse Phase, entre autres, plus on a des implants de bonne qualité, plus on peut faire des recherches tout en ayant, pouvant discuter avec les gens, etc. Vous, cet outil-là, vous l'utilisez comment dans vos parties ? C'est un peu complexe de se dire on a accès à tout dès qu'on a besoin de quelque chose.
J'ai déjà un outil dans mon sac qui fait ça. Et je ne suis pas Superwoman. Le problème, ce n'est pas l'accès à l'information, c'est ce qu'on fait avec. En Mindjammer, il y a une noosphère. On peut charger ses mémoires, on peut télécharger les mémoires, les pensées. On peut même télécharger les mémoires des gens morts. Alors, toute la connaissance de l'humanité est en principe disponible. Ça change la façon de jouer, bien sûr. C'est pas le manque qui est le problème. C'est ce qu'on fait avec cette information. Donc, encore comme Romain a dit au début, c'est la créativité. Oui, on n'est pas dans un univers Medvan où on gratte pour avoir suffisamment d'argent d'acheter une épée. C'est pas ça, c'est le gameplay est complètement changé. Il faut être créatif avec un univers qui est abondant, qui foisonne de conscience et d'informations.
On est aujourd'hui déjà dans un monde qui est complètement connecté, avec en effet beaucoup d'informations qui circulent. Il faut se dire que dans Shadowrun, tout comme dans Eclipse Phase, vous avez, oui, un accès énorme à l'information. Il faut déjà prendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il faut savoir faire le tri. Puis après, vous n'avez pas accès non plus à tout. C'est-à-dire que vous avez OK accès à beaucoup de connaissances, mais vous n'allez pas avoir accès à des connaissances militaires ou à des connaissances privées. Il y a des choses que les gens gardent quand même, ce petit jardin secret qu'on garde et qu'on pour lequel on va payer des gens pour aller chercher les infos, les petits secrets pour faire chanter qui sont bien utiles. Donc, quand je maîtrise du Shadowrun ou de l'Eclipse Phase, je donne accès à une grande quantité d'informations génériques, mais le joueur me dit « Ouais, je cherche ce point-là. » Je dis « Bah ouais, mais tu le trouves pas. » Et tu le trouves vraiment pas. La personne, elle garde ça secret. Elle a pas envie qu'on trouve les photos de sa dernière soirée de boîte de nuit où il était complètement ivre. Voilà, ben, il faut aller les chercher. Donc ça induit une nouvelle mécanique, ça induit de la créativité et aussi le type d'information. Ça permet en fait de pousser le joueur, il me dit voilà, je veux des informations sur telle personne. Je dis, ben, tu veux quoi ? Ok, c'est un personnage chez elle. Ben, tu vas trouver ses dernières photos dans le gala, le dernier article dans Closer, et voilà quoi. Mais tu cherches quoi précisément ? Et donc ça va pousser aussi une réflexion, créativité, où il va me dire, je veux ça. Et je lui dis, ben, ça en effet c'est public, tu peux le trouver. Ou non, ça c'est privé, il va falloir que tu cherches, il va falloir que tu creuses, tu fasses fonctionner des réseaux, tu payes des pirates, etc. Et vu que tout a un prix, ben, non, c'est vraiment ça, hein. Tout a un prix dans Shadowrun, Cyberpunk, c'est bien résumé, ben, tu veux payer un pirate pour aller chercher les dernières photos de tel responsable de corpo, ben, elle est là le truc. Donc si tu as l'argent, c'est cool, si tu l'as pas, ben, va falloir trimer pour les avoir, il va falloir trouver un autre moyen de détourner. Et tout ça, c'est intéressant.
Ou accepter de rendre des services en échange, ce qui est des portes vers d'autres aventures et situations intéressantes à exploiter.
Exactement, en fait, c'est tout un outillage, en fait, l'information, le renseignement, sont quelque chose de très important dans ce type d'univers, et c'est quelque chose qu'on peut exploiter à l'infini, en fait.
Et tu as touché sur un point très intéressant aussi, c'est l'information privée. Oui, et maintenant, déjà, dans notre société, on aborde ce sujet. On met ces expériences sur Facebook. À qui appartiennent ces informations? Et dans l'avenir, dans les univers transhumanisme, on peut avoir les mémoires stockées dans l'anosphère. À qui appartiennent ces mémoires? On peut protéger ses propres mémoires, on peut hacker les mémoires des autres. Alors il y a beaucoup de choses à faire, pas à la recherche de ces informations, mais avec les informations qui existent déjà. On peut devenir très créatif avec.
Et même dans Shadowrun, où on a par exemple des puces qui permettent d'avoir artificiellement une compétence que le personnage n'avait pas à l'origine, hein, c'est le côté « je connais le kung-fu maintenant ». Mais même là, c'est bien précisé que du coup, la puce, on va dire, prend le contrôle et cette compétence est utilisée d'une manière très mécanique. Et ça a aussi des conséquences. C'est pas la même chose que d'avoir appris à faire du kung-fu sur la durée en prenant des cours, en s'entraînant. C'est pas parce qu'on met une puce que d'un seul coup notre corps est capable de faire tout ce qui est nécessaire pour faire du kung-fu. Ça marche pas comme ça. Donc ça aussi, c'est des choses qui... c'est des raccourcis, mais c'est pas des solutions miracles non plus.
J'ai juste une chose à ajouter. On n'a pas vraiment abordé aujourd'hui, mais je remarque que c'est le corps. On n'a pas discuté l'intégrité du corps dans les jeux de rôle cyberpunk et transhumanistes. Si on peut avoir un IA ou un personnage qui est un vaisseau ou qui gère une planète entière ou qui est constitué de plusieurs personnes qui ont volontairement décidé de partager leurs esprits pour devenir une sorte d'entité collective. Alors, il y a cette sanctité du corps qui, pour moi, ça fait partie aussi de la peur qu'on peut générer, qu'on peut utiliser dans les jeux de rôle transhumanistes. Le menace à l'intégrité du corps. On n'a pas vraiment à discuter, mais juste, je voulais juste aborder
plus le temps, effectivement. Oui, c'est, il y a plusieurs points qu'il aurait fallu encore aborder. Tu voulais réagir?
Un tout petit point par rapport à ce que vient de dire Sarah, c'est je peux juste vous conseiller un animé que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Psychopass. Où justement toute une société est régie en fait par des cerveaux réunis entre eux en fait, mais le système s'appelle Sibyl, c'est une IA qui est conçue avec tout un amas de connaissances de cerveaux humains, ni plus ni moins, et c'est assez intéressant parce que ce système se fait juge et bourreau, et je vous conseille de le regarder, ça se trouve sur Netflix.
Et pour rebondir à nouveau sur Shadowrun, il y a une des corporations dans Shadowrun qui est Horizon, qui est dirigée par un système qui s'appelle, je crois, la Confluence, qui en fait est ce principe-là. En fait, c'est une espèce de gestalt des esprits. C'est un algorithme qui se base sur un peu les profils de tous les employés de la corporation pour essayer de faire une matrice décisionnelle. Et il y a toute une campagne qui, je crois, malheureusement n'a pas été traduite en français, c'était pour la 4e édition, qui s'appelait The Twilight Horizon, qui explore en fait les bons et les mauvais côtés de ce système et les conséquences que ça peut avoir quand c'est une multinationale qui est dirigée de cette manière-là, en bien comme en mal. C'est une campagne assez intéressante justement sur ce sujet.
Bien, donc nous avons une petite dizaine de minutes si vous avez des questions. Ou alors on relance encore si vous n'avez pas de questions particulières. Ah si.
Oui, bonjour. J'ai essayé de la noter parce que je ne voulais pas l'oublier pendant la conférence. Les mondes de cyberpunk et transhumanistes, on l'a vu, ça pose pas mal de questions éthiques, morales, soit pendant toutes les tables rondes qu'on a vues avant, mais même ici. Ma question, c'était quand vous, dans vos jeux ou dans vos animés, quand vous animez vos parties, c'est quoi votre démarche quand vous voulez impliquer les joueurs dans ces dilemmes moraux ou éthiques, au-delà d'avoir juste une sorte de gros coffre à jouets comme vous avez pu en parler. Comment vous voulez faire pour c'est quoi votre démarche pour rendre la chose plus euh, pour impliquer les joueurs dans des choix éthiques et moraux.
Je vais prendre typiquement l'exemple que j'ai fait jouer hier soir. Il y a un choix à un moment éthique et moral, et je leur donne les deux possibilités. C'est-à-dire que, étant donné que l'univers est très noir, je peux très bien leur faire choisir le côté blanc où on est tout gentil, tout mignon, etc. Mais aussi le côté très sombre, où on va même jusqu'à doubler son employeur en lui mettant un super couteau dans le dos, etc. pour récupérer du profit, hein, ni plus ni moins. Shadowrun, il faut aussi gagner son pognon. Voilà. Mais je ne vais pas mettre de limite, justement. C'est-à-dire que l'immoralité fait partie de l'essence du jeu. Et pousser les joueurs à être, justement, pousser les joueurs sur cette pente, en fait. Parce qu'on a tous notre nature qui, par défaut, est plutôt morale, je vais dire. Et justement, pousser les joueurs de ce côté-là à explorer ça, c'est une mécanique intéressante.
Justement, vite fait, Romain le disait tout à l'heure aussi, ce qu'on utilise par le média jeu de rôle, c'est l'implication émotionnelle. Donc, c'est pas simplement on est passif devant quelque chose et on voit, ah là, on se dit, ah, c'est un salaud, etc. Non, c'est un moment, on doit être le salaud, peut-être, parce que sinon, on n'avance pas.
Et c'est plus drôle.
Et ça, je pense que c'est important, c'est compliqué quand on est sur une seule partie, un one shot, comme on dit, mais quand on est vraiment sur un jeu type campagne, que les choix des joueurs dans un scénario donné aient des conséquences plus tard, c'est quelque chose qui est important, qu'il ne faut pas oublier. Dans Shadowrun, on y revient toujours, mais il y a un exemple qui est donné maintenant dans les livres de règles, qui est que si les Shadowrunners arrivent sur une base d'une corporation, ils sont censés voler le prototype, c'est toujours le Shadowrun de base, et ils se mettent à défourailler, à tuer tout le monde, c'est juste impossible que dans ce monde, la corporation n'en prenne pas note et ne recrute pas derrière une équipe d'extermination dans le but de retrouver ces mecs et de leur faire payer ce qu'ils ont fait, parce que la corporation n'a aucun intérêt à paraître faible et à laisser faire ce genre de choses. Donc, si les joueurs veulent jouer comme ça, s'ils se sentent invincibles, s'ils ont envie juste de tirer sur tout ce qui bouge, le monde va répondre à ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est le MJ a plein d'outils aussi pour mettre ça en scène, et ça peut déboucher sur tout un tas de nouvelles pistes d'aventure dans le futur.
Pour rebondir très vite sur Shadowrun, si vous ne connaissez pas, je vous conseille la compagnie Harlequin de la 4e édition, avec justement vraiment ce choix moral et surtout ses conséquences des années plus tard.
Je dirais que ça s'amplifie du fait que dans les univers cyberpunk et transhumaniste, il y a de l'hypersurveillance. On voit tout. Donc, faire ce genre de choses implique forcément que soit on a été vu, en tout cas, il y a forcément quelqu'un, il y a une trace. Donc, à partir du moment où on décide de faire quelque chose d'immoral par nécessité, on a des conséquences derrière, quoi qu'il arrive.
Dans Mindjammer, j'ai laissé la liberté de décider la moralité des choses aux joueurs. L'univers est profondément ambigu. La nouvelle communalité de l'humanité se considère une utopie, mais la religion est illégale. Les nouvelles sont illégales. C'est la propagande si on distribue les nouvelles librement, par exemple. Il a recours à des mesures parfois assez lourdes, assez contraignantes pour assurer la paix et la cohérence d'une civilisation extraterrestre, interstellaire, sur une échelle énorme. Et je suis toujours très heureuse quand je vois que les gens réagissent contre l'univers avec des émotions fortes. Les joueurs eux-mêmes, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il va falloir faire pour maintenir une société globale, même pas parler d'une civilisation interstellaire. Donc ces questions sont des vraies questions, ce n'est pas une simple question de noir et blanc, les corporatistes sont mauvaises, une civilisation interstellaire doit être un peu totalitarianiste pour cohérer. C'est pas évident, les réponses à ces questions ne sont pas évidentes. Donc je laisse cette liberté de choisir et de définir le temps du jeu aux joueurs. Oui.
On a une autre question, je crois, j'ai vu le micro par là-bas.
Bonjour. Bonjour. Merci pour votre conférence. Moi, j'ai une question. Elle va être un petit peu longue parce qu'il faut que je la contextualise. On a parlé surtout de cyberpunk, puisque la différence entre cyberpunk et transhumaniste, selon moi, c'est que le cyberpunk, c'est bien dans l'imaginaire, c'est avant tout ce qu'on imagine. Le transhumanisme, c'est déjà une idéologie, puisque il y a des personnes justement, qui travaillent à une idée de singularité technologique ou de faire transférer l'humain à un niveau supérieur. Là où j'ai un petit souci, et je voudrais avoir votre avis, c'est la science-fiction, comme vous l'avez dit, ça peut servir à regarder 20 minutes dans le futur ou à extrapoler des choses réelles, mais ça permet aussi de briser des lois, comme par exemple, vous parliez, Madame Newton, du fait qu'on ne pourra jamais transférer sa conscience dans une machine, parce que c'est un quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, et même ce sera simplement une copie, mais pas la chose originelle. Pourtant, dans le cyberpunk, on peut le concevoir, on peut l'imaginer pour une raison dramaturgique, tout simplement. Or, voilà ce que je voudrais avoir comme explication, c'est comment est-ce que les transhumanistes, donc qui veulent faire advenir des questionnements ou des technologies imaginaires du cyberpunk, ne risquent pas de tomber dans l'idée simplement parce qu'ils veulent faire, c'est quasiment de la magie ou de la religion, parce que ils veulent quelque chose, mais qui n'arrivera jamais. Donc comment est-ce que ce corps que l'on peut imaginer refabriquer, changer, transcender, comment on se sentirait si on découvre, on peut pas se modifier comme on veut, alors qu'on a eu cette promesse-là, aussi bien par l'imaginaire du cyberpunk que par justement l'idéologie transhumaniste. Désolé, je suis un peu compliqué. Merci beaucoup.
D'abord, je dirais que je ne suis tout à fait d'accord avec l'idée que transhumanisme soit une idéologie. C'est plutôt une approche. C'est quelque chose qui est vraiment devant nous actuellement. Et il faut discuter ce sujet. Donc, je dirais que les définitions précises de ce qui va advenir n'est pas forcément important au débat. Ce qui est peut-être qu'on ne pourrait pas modifier nos corps exactement comme quelques transhumanistes disent, mais c'est sûrement on va avoir les impacts très sévères d'une sorte de singularité qui vienne. La globalisation, c'est une sorte de singularité, alors il y en a plusieurs. C'est une question très difficile à aborder dans quelques minutes, mais oui, c'est une première étape.
Il n'y a pas besoin d'aller très loin aujourd'hui. Un bras qui a été coupé, on a réussi à créer des prothèses animées connectées au système nerveux. C'est très basique, mais on y est déjà en fait. Simplement, effectivement, il y aura très certainement des limites. Dans les jeux, effectivement, c'est fantasmé, d'une certaine manière. Et c'est peut-être aussi ce qui a donné naissance donné l'envie à des gens de se pencher sur le sujet, simplement, et d'aller chercher plus loin.
Et on peut même dire que ce ne sera pas la première fois que l'humanité s'auto-persuade d'un truc pour découvrir plus tard que ce n'était pas le cas et que voilà, et on s'adaptera comme toujours.
Quoi ? On n'a pas eu nos voitures volantes en l'an 2000 ?
Mais aussi, je dirais, c'est intéressant aussi le fait que le transhumanisme nous affecte déjà maintenant. On disait hier dans une autre conférence que notre concentration, notre capacité de concentrer sur les choses a été déjà affectée par le fait qu'on est assujetti, on est exposé à tellement d'informations tous les jours que ça devient de plus en plus difficile à se concentrer. Donc, les impacts de cet événement, les épiphénomènes de cet événement sont déjà avec nous.
Voilà, on ne va pas avoir le temps pour une troisième question parce qu'il nous reste moins d'une minute. Donc merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde. Vous pouvez nous retrouver pour la plupart au pôle ludique. Et